L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dodécaphonique. Mise en scène. Production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Henri se met à la recherche de deux chanteuses et d'un chanteur pour jouer. Il faut que les chanteurs soient jeunes puisqu'ils représentent des personnes jeunes. Patrick jouera au piano l'œuvre. Le compositeur est obligé de faire une adaptation piano de son œuvre, mais il en avait presque entièrement fait une étant donné qu'il donnait à Patrick à jouer au piano la musique de son opéra. Cela leur donne 2 mois de travail. La salle Pleyel accepte de présenter l'œuvre. Patrick et 3 chanteurs vont répéter salle Pleyel et pendant 1 mois, avec la direction du compositeur, tout se passe pour tout le monde bien et tout le monde trouve l'œuvre très belle. Le soir de la présentation, il y a énormément de monde qui vont sur le Playel, car on va représenter une première mondiale. Et l'opéra concert est présenté. Tout se passe bien. Le public est émerveillé par la beauté de cet opéra. Une histoire très forte et une musique qui convient bien à cette histoire. Et en plus, c'est moderne. Oui, c'est moderne. Après la représentation, le public a bien applaudi et tout le monde est heureux. On trouve que Patrick a bien joué, et ceci pendant 1h30, sans interruption. Malheureusement, malgré que le concert a eu beaucoup de succès, cela ne veut pas dire que quelqu'un aidera à la représentation en opéra. Cela coûte très cher. Patrick est très heureux, mais Henri Dutreux est triste, car pour lui, ce n'est pas ce qu'il voulait. On rejoue l'opéra concert pour France Musique. Il est enregistré sur CD. Patrick se sent près de cette histoire, car c'est l'histoire du jeune homme qu'il a rencontré plusieurs fois à Deauville. Il se sent très près de ce jeune homme. Il se dit que ce qui lui est arrivé, il a l'impression de ressentir ce qu'il a ressenti. Et lorsqu'il joue, il a l'impression d'être le jeune homme. Marie a aussi trouvé l'opéra très beau, et que ça décrit très bien l'histoire du jeune homme, la déchéance du jeune homme qu'elle a rencontré. L'histoire de ce jeune homme qui l'a touché. Philippe a acheté le CD et félicite Patrick. Patrick lui écrit qu'il a écrit le livret de cet opéra. Philippe le félicite et lui dit qu'il devrait le dire officiellement. Cela permettrait de gagner de l'argent et avoir la renommée d'avoir écrit cette œuvre. Patrick lui écrit que ça n'a aucune importance, que l'essentiel c'est que l'œuvre a été faite. Marie, ses cheveux repoussent, elle est heureuse, elle retrouve son visage d'avant. Lorsqu'elle se regarde dans la glace, elle se demande si elle a vraiment été malade. Mais dans la nuit des fois, elle fait des cauchemars et la maladie revient dans son rêve. La peur que la maladie revienne. Mais très vite, dans la journée, elle oublie. Et puis, elle a Patrick près d'elle qui travaille. Elle retourne voir le prêtre pour lui parler de la vie, de la mort, de religion, de la souffrance, etc. Elle lui demande « Pourquoi est-ce que Dieu a fait un monde qui n'est pas parfait et pourquoi est-ce que les gens ne sont pas toujours bons ?» Il lui dit « La vie n'est pas parfaite parce que les hommes ne veulent pas être parfaits. C'est-à-dire qu'il ne veut pas suivre les commandements de Dieu. Et si les hommes ne sont pas parfaits, c'est aussi à cause de la même chose. » Elle lui demande encore, « Est-ce que la religion catholique est la vraie religion ?» Il lui répond, « C'est la vraie religion, mais les autres religions aussi amènent à Dieu, mais la nôtre est plus près de Dieu. » Elle lui demande, « Pourquoi Dieu nous donne des épreuves ?» Il lui dit, « C'est pour que les hommes puissent comprendre leurs erreurs. Pourquoi a-t-il voulu que l'on enlève mon fils ?» Il lui dit, « C'est peut-être pour vous punir de quelque chose. » Alors elle lui explique qu'elle ne voulait pas de père. Il lui dit, « Ça c'est un péché. » Que lorsqu'on élève un fils, il doit avoir besoin d'un père. En refusant à son enfant un père, c'est terrible. Dieu a voulu vous punir en vous arrachant votre enfant pendant des années pour vous montrer le mal que vous avez fait au père et à votre enfant. Elle lui dit, j'ai été très puni, et c'est normal. Mais pourquoi il a fait souffrir mon fils en le faisant martyriser par des personnes sans moralité? Mon fils était innocent, il n'avait pas péché. Mon fils, pendant plus de 20 ans, a souffert. Et d'ailleurs, il lui en reste encore des traces de sa souffrance. Il n'a pu se développer comme il le fallait. Le prêtre lui dit, des fois les péchés des adultes peuvent retomber sur les enfants. Elle lui dit, c'est injuste. Il lui dit, la justice divine n'a rien à voir avec celle des hommes. Elle lui dit, c'est compliqué tout ça. Compliqué. Ils ont parlé tous les deux de choses essentielles sur la vie. Elle va voir le médecin pour contrôler une fois tous les 3 mois. Voir si tout va bien. Cela lui rappelle sa maladie et sa larme. Elle a peur que ça se réveille. Il lui faut du temps pour retrouver son calme après ses visites. Mais pour le moment, les radios ne dévoilent rien de nouveau. Malheureusement, un jour qu'elle attend son tour pour voir le médecin à la salle d'attente, et assis à côté d'elle, une femme d'une 30aine d'années, petite, maigre, les cheveux courts gris, habillée d'une robe simple grise. Face à la femme, elle se sent mal à l'aise. La femme dit à Marie, « Je suis en phase terminale. Les rayons ne me font plus rien, bien au contraire. J'ai décidé de mettre fin à ma vie. Je ne veux pas finir mes jours avec des douleurs atroces et inhumaines. Ma petite fille ne doit pas me voir comme ça. J'ai décidé de terminer, d'arrêter tout ça. » Marie ne sait quoi lui dire. Elle est terrifiée et ne peut s'empêcher de penser à elle, à se demander ce qu'elle ferait si elle savait qu'elle était en phase terminale. Peut-être ferait-elle comme cette femme. Elle prend la main de la femme et la serre très fortement. Elle lui dit « Je prierai pour vous ». Elle a peur de mourir, que le cancer revienne, et pense à Patrick. Mais physiquement, elle se sent mieux. Elle est redevenue comme avant. Elle se souvient de Hugo et n'a pas de nouvelles de lui. Et cela l'attriste beaucoup. Damien a fini son travail sur la chute de l'Empire romain. Il le présente à plusieurs éditeurs. Tous trouvent le travail très bien, mais qu'il a des idées qui peuvent choquer les personnes, parce que Damien compare le monde romain antique au monde actuel. Il critique par exemple les idées sociales et que cela ne se fait pas. On lui demande de refaire son travail, de supprimer certaines choses qui peuvent choquer, comme dire par exemple que la dégradation des mœurs est aussi une conséquence de la fin de l'Empire romain. Cela n'est pas bien de dire ça, surtout à une époque où les gens veulent être libres. Liberté des mœurs. Et puis, il y a le mariage des homosexuels en ce moment. Donc dire que la liberté des mœurs provoque la chute d'un empire, d'une société, cela n'est pas bien. Il faut que Damien reprenne son travail et supprime des passages où il compare la chute de l'Empire romain à notre époque. Il ne faut pas dire, surtout pas dire, que la décadence romaine est due à des mœurs trop libres et que notre époque est aussi trop libre du point de vue des mœurs. Et il y a aussi d'autres problèmes qu'il aborde, celui des étrangers, les droits de l'homme, l'égalité des hommes et la loi sociale critique. Et les lois sociales. Critiquer tout ça, c'est inadmissible de critiquer toutes ces choses, surtout en disant que toutes ces choses créent la décadence d'une société. Damien est triste. Il a fini son travail et on le démolit pour une histoire de censure. Il se dit qu'il a raison. Que cette théorie de la chute de l'Empire romain va de pair avec celle de la chute du monde occidental. Il ne sait que faire, cela le rend malade, de supprimer ce qu'il a écrit, de supprimer ça. Il n'a pas du tout envie de le faire. Et comment pourrait-il être édité? Tous les éditeurs sont de gauche, la critique, les idées générales aussi. Ils ne supportent pas que l'on n'ait pas les mêmes idées qu'eux. Ils interdisent les autres pour qu'ils puissent s'exprimer. Il se dit que c'est la censure. Il en parle à Jules et lui demande ce qu'il pourrait faire. Jules lui dit « Depuis 50 ans, c'est la censure en France. Elle est de gauche et politiquement correcte. La liberté d'expression n'existe plus. Depuis mai 68, on a mis au placard des écrivains soi-disant de droite. Il n'y a que les idées de gauche qui peuvent s'exprimer. Mais pour un roman, c'est intolérable. Pour un romancier, c'est intolérable. Mais que faire? Il réfléchit, il lui dit. Tu pourrais te faire éditer dans un pays autre que la France. Dans un pays où il y a plus de liberté pour s'exprimer. Que veux-tu? C'est normal, étant donné qu'en France, 75% des journalistes sont de gauche, que tous les journaux sont de gauche, même ceux qui soi-disant sont de droite, et que le monde intellectuel est à 100% de gauche, même les comédiens. Damien réfléchit, se dit qu'il a raison, qui doit se faire éditer à l'étranger. Alors il cherche des pays, et ce n'est pas facile, car beaucoup de pays sont comme la France, peut-être l'Angleterre. Il cherche et voit des maisons d'édition anglaises. Il envoie son manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Elles sont plus libérales pour parler de certaines choses malgré que le pays soit monarchique. Il envoie son travail à une maison d'édition universitaire parce qu'il pense que ça peut intéresser les chercheurs. Il a peur d'avoir fait tout ce travail pour rien. Enfin, une maison d'édition, petite maison d'édition, qui publie pour les universités, accepte d'éditer son livre. Bien entendu, il faudra le faire traduire en anglais. Pour ça, la maison d'édition le payera moins. Damien accepte, il ne peut pas faire autrement. Une fois que la maison d'édition est finie de traduire son œuvre, elle envoie la traduction à Damien pour savoir si c'est correct pour lui. Damien relit ce qu'il a écrit et ce qui a été traduit en anglais. Heureusement qu'il connaît bien cette langue. Mais tout de même, c'est difficile. Il compare ce qui est écrit en français et ce qui a été traduit et trouve que c'est très correct. Il n'a pas modifié le sens de ce qu'il voulait dire, c'est l'essentiel. Bien entendu, il gagnera moins que s'il avait été édité en France, mais tant pis. Il va en Angleterre signer le contrat et attend. Jules est heureux qu'il ait réussi à se faire éditer. Ça n'a aucune importance que ce soit édité en France ou en Angleterre. Et puis, les historiens anglo-saxons sont meilleurs que les historiens français. Ils ne font pas de politiquement correct et se contentent de dire les faits sans faire de commentaires pour juger. Les jours passent et le livre est mis en vente. Damien est invité en Angleterre pour présenter son livre et signer des dédicaces. Il est invité à quelques émissions littéraires à la radio et à la télévision publique anglaise. Comme c'est un livre assez pointu, ce sont surtout les chercheurs ou les étudiants qui achètent le livre. Ce n'est pas un livre grand public. On trouve aussi quelques livres dans les librairies. La vente se fait, disons, pour un livre comme celui-là, assez bien. Damien est malgré tout satisfait, voit que les Anglais sont des gens sérieux et qui aiment le travail bien fait. Après tout ça, il cherche à se reposer de son travail, qui a été plus long que d'habitude, parce qu'il a été obligé de surveiller la traduction de ce livre en plus. En France, on apprend qu'un historien français a été édité en Angleterre. Cela crée des jalousies et l'on critique d'une façon négative le livre en disant que c'est un livre passéiste, rétrograde, etc. Qu'il y a des grosses erreurs historiques parce que ça n'entre pas dans l'idéologie de gauche et que c'est très médiocre. Damien est attaqué de partout, il est triste. Les Anglais soutiennent le livre de Damien en disant que c'est une très belle thèse et qu'il a su traiter la chute de l'Empire romain d'une façon très originale et réaliste. Il s'est basé sur la vie quotidienne des Romains, pas que sur la politique. C'est un très beau travail. Les historiens français disent que maintenant, l'on ne travaille pas de cette façon, que l'on fait de l'histoire géopolitique et sociale, mais pas sociale rétrograde, que la façon de travailler de Damien est très rétrograde, que la liberté des mœurs n'a jamais détruit un empire tel qu'il soit, etc. Lui, Damien, se dit qu'il ne faut rien dire, mais il sait qu'il a raison. Malgré certains chercheurs français, plus sérieux que les autres, achètent le livre en Angleterre et le lisent. Ils trouvent bien, mais ne disent rien, car ils ont peur de se faire attaquer par les autres et qu'on les traite de tous les noms. La liberté d'expression n'existe plus en France et depuis longtemps. Pour quel que soit le sujet, il faut faire attention à être de gauche et politiquement correct. Damien est attaqué de partout. Il parle de ça à son père qui lui dit « Ce sont les censeurs qui mettent à l'index ton livre et ton travail. » Un historien français très connu des médias prépare un livre pour répondre à ces négations qui voient dans le livre de Damien. Il trouve que ce n'est pas une thèse historique, mais fasciste. Il fait son livre et étudie le livre de Damien chapitre par chapitre. Son livre n'a pas beaucoup de succès. Damien ne peut même pas répondre aux attaques parce que l'on en empêche. Et puis, s'il répondait, ce serait encore pire. Jules le réconforte et lui dit « Tu as fait un très beau travail. Ceux qui t'attaquent le font par militantisme et idéologie et non pour des questions historiques et professorales. Être historien en France, cela n'existe plus depuis longtemps. » Personne n'a cherché à connaître ce qu'il avait à dire sur ces attaques. Aucun journaliste est venu le voir, lui a demandé un entretien, car les journalistes aussi ont les mêmes idées que les autres. Henri Sylvestre, le patron de Jules, lui donne de plus en plus de responsabilités, ce qui énerve Mercier. Mercier essaye toujours d'enquêter sur lui, mais ne trouve rien. Un soir, Damien va sur le Périel assister à un concert, c'est un opéra-concert. Dès que la musique commence, il est emporté par la musique. Musique forte, dure. Il est séduit par le jeune homme qui joue du piano. Il est sur la scène avec son piano et trois chanteurs. L'histoire que raconte cet opéra lui met les larmes aux yeux. Il se met à la place du héros qui se trouve dans une spirale et qui le mènera à la mort. La musique s'identifie au héros, pourtant elle est jouée par un pianiste, mais un pianiste qui a un talent énorme. Et puis le pianiste semble avoir l'âge du héros. Une fois que le concert est fini, il a les larmes aux yeux. Et ne sait pas ce qui lui arrive. Tout tourne autour de lui et a des difficultés à reprendre ses esprits. Pour la première fois de sa vie, Damien a besoin d'aller voir le jeune pianiste. Il se sent attiré par lui. Il se lève et va dans les coulisses. Il voit que malheureusement le jeune pianiste est entouré d'un homme qui est le compositeur de ce chef-d'œuvre. Il le sait parce qu'il l'a présenté sur la scène. Il y a à côté de lui une femme très belle. Damien n'ose pas parler au jeune pianiste. Il est trop entouré, alors il s'en retourne. Mais la musique reste dans sa tête, tellement elle est forte. Il trouve le pianiste très jeune et se dit que ce doit être un véritable prodige. Il ne reconnaît pas en ce jeune homme Patrick, son ami Patrick, parce que cela fait longtemps qu'il l'a vu. Et en plus, il n'aurait jamais imaginé que ce soit un prodige de la musique. Le lendemain, dans le salon avec son père, il veut se renseigner et voir qui est le jeune prodige. Il prend le journal pour se renseigner. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, dodécaphonique, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.